16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
2 heures de bonne humeur, généreusement nappé de savoir. Le saucier s'appelle Mathieu Noël.
Oui, alors dans le rôle de la sauce elle-même, si je dois poursuivre votre métaphore, voici à présent celle qui nous entraîne chaque après-midi dans les coulisses de l'histoire pour y découvrir les grands de ce monde sous un autre angle, moins connu. Clémentine Portier-Kaltenbach n'a pas pipé mot durant le portrait de Karl Marx, même si elle savait des trucs.
Sacré baiseur.
Hein, oui, Clémentine, peut-être. Mais aujourd'hui, vous nous emmenez dans une pièce bien particulière de l'hôpital Saint-Louis à Paris.
Ah oui, c'est vrai, mais dites donc, je crois que Karl Marx était plutôt dans le genre monogame. Hein. Ah vraiment, quel beau discours, je suis estourbi, mais j'en ai peur. Nous allons quand même quitter les fraises des bois, la fonction chlorophyllienne et les évocations bucoliques, parce que moi, je vous emmène à l'hôpital Saint-Louis pour parler peste bubonique. Ah oui, à la fin du XVIe siècle, Paris était touché par une grave épidémie de peste qui a fait quand même 70 000 morts. Hein. Donc, quand on voit de quoi on parle aujourd'hui avec la Covid. 1562, 70 000 morts rien qu'à Paris. Ensuite, deux grosses autres épidémies moins graves dans les années qui ont suivi. Et du coup, comme l'Hôtel Dieu était trop petit pour accueillir tous ces malades, Henri IV décide de faire bâtir une nouvelle maison de santé dédié aux pestiférés, l'hôpital Saint-Louis. Pourquoi Saint-Louis? Parce qu'à l'époque, on croyait que Saint-Louis était mort de la peste à Tunis au cours de la 8e croisade.
Il n'est pas mort de la peste.
En 1270. Mais si vous ne le saviez pas.
Il joue les ingénus.
Non, mais Stéphane, il joue l'innocent. Il le sait très bien que le nôtre bon docteur Charlier a pu établir que Saint-Louis n'était pas mort de la peste, mais du
scorbut.
Exactement, ouais. Du scorbut.
C'est vrai?
Exactement.
J'ai répondu complètement au hasard.
Il mangeait trop de poissons. Il mangeait beaucoup trop de poissons et pas assez de fruits et de légumes. Voyez, on était déjà dans l'écologie.
On le dit depuis toujours, voilà. 5 fruits et légumes par jour.
et malheureux roi Saint-Louis n'était pas au courant. Alors du coup, l'hôpital Saint-Louis, qui porte son nom, créé pour les pestiférés par Henri IV, va devenir le lieu de naissance de la dermatologie française. Alors, grande question qui se pose, et je vois qu'il brûle vos lèvres, messieurs. Comment apprendre aux étudiants à reconnaître telle ou telle maladie de peau?
En examinant des cadavres.
Non, mais il fallait des cadavres qui aient des stigmates, qui aient des différentes maladies. Oui. Comment vous le faites apprendre? Alors, bon, je réponse. Dans un premier temps, faire réaliser des dessins, des aquarelles pour montrer tout ça aux étudiants. Mais ça manque de relief. Alors, on va essayer le carton-pâte. Mais le carton-pâte, c'est trop fragile. Et puis, les modèles noircissaient à la longue. Et c'est là que le docteur Lélé à l'idée de faire reproduire les maladies de peau à l'aide de moulages de cire, donnant une représentation en relief de toutes les affections cutanées.
Alors, ça a l'air de vous exciter considérablement.
Il va rencontrer, oui, ça me fait rire, parce que vous savez ce qu'il fait? Il va rencontrer un certain Jules Barretta qui fabrique des fruits en cire pour les confiseurs, pour les vitrines des confiseurs. Il est passage Jouffroy à Paris. Et donc, il va voir ce gars-là et lui dit « Écoutez, maintenant, c'est terminé de mouler des poires et des bananes. Vous allez vous mettre à mouler des mycoses et des pustules. » Bon. Alors, Barretta fait son premier moulage en 1867 et aujourd'hui, je suis en mesure de vous apprendre qu'avec ses 4807 cires, la collection Barretta est la plus importante collection au monde de cires dermatologiques. Ça vous fait une belle jambe, ça.
Mais on peut la voir.
Pardon ?
On peut la voir ?
Mais bien sûr. Alors, que voit-on dans ce musée ? Miam, miam.
Oh, oui.
Un vaste choix de fleurs du mal s'offre aux visiteurs dans les 162 vitrines. Alors, qu'avons-nous là ? Ah, la luxation du testicule. L'affection bien intéressante.
Ça se
luxe. Ouh, ça doit faire mal. Ça doit faire mal. Alors là, nous avons le xéroderma pigmentosum et le molluscum contagiosum, pustule, elle aussi croquignolette et hautement contagieuse. Et dans cette autre vitrine aussi d'ailleurs, la syphilide pustulo-crustacée qui porte bien son nom. C'est comme si vous aviez d'énormes huîtres noires, voyez, greffées sur le visage.
Des huîtres?
Mais comme
ça
je vous connais...
Plus aujourd'hui.
Non, mais ça, il y a...
En tout cas, ça existait, je vous prie de le croire. Comme je vous connais bien, les garçons, je pense que vous préférerez sans doute le spectacle des organes monstrueusement gonflés par l'éléphantiasis ou filariose lymphatique. Alors imaginez, c'est une larve qui devient un ver et qui perturbe la circulation de la lymphe dans l'organisme. Et du coup, certaines parties du corps deviennent monstrueuses. Dans la collection Barretta, il y a un moulage d'un sexe masculin de la taille d'une patte d'éléphant. Atteint d'éléphantiasis, bien sûr. Alors, le scrotum atteint d'éléphantiasis peut se remplir d'eau et peser jusqu'à 60 kilos. Bon, je vous rassure tout de suite.
À visiter avec les enfants.
Ne vous inquiétez pas, c'est très rare. Alors, je vous recommande particulièrement les 442 moulages d'affection syphilitique. Quand on voit les dégâts que pouvait produire la vérole sur le corps humain avant l'invention des antibiotiques, on comprend que nos ancêtres, en particulier les messieurs, en aient eu une peur panique. Hein, parce qu'à l'époque, en plus, on ne savait pas la soigner. On la soignait à coups de mercure et on ignorait complètement si c'était efficace. Alors, il y a notamment ces visages comme avalés de l'intérieur des victimes du stade ultime de la syphilis. La collection Barretta doit être l'un de ces rares musées que le visiteur sonorise par lui-même avec ses exclamations horrifiées. On y pousse des cris de A à Z. Ah, oh, mais non. Ah, oh, mais c'est pas vrai. Ah, oh, mais quelle horreur. Ah, oh, mais quelle horreur.
Alors, sortie.
On crie à mesure qu'on découvre les vitrines et quand on en sort, on est saisi du besoin pressant d'aller embrasser un dermatologue et de faire un chèque pour la recherche médicale. Tiens, tiens, mais que font donc des pommes dans la vitrine 37 mycosis fongoïdes? Elles sont là pour rappeler le temps où Barretta, plutôt que des fleurs du mal, moulait encore des fruits appétissants. C'est pas une chronique écolo, ça, hein, messieurs?
C'est très, très écolo. Mais
merci surtout... beaucoup, Clémentine. Ça donne envie d'aller visiter. Ça fait penser, vous savez, à la vitrine du musée à Saint-Pétersbourg. Créé par Pierre Legrand, où il y avait toutes les monstruosités de son temps.
Ah oui, savez, oui, ah oui, mais alors il y a aussi, c'est aussi au musée de l'érotisme à Saint-Pétersbourg qui est exposé le sexe de Rasputin. Avec toutes sortes de certificats d'authenticité, on peut aller, mesdames, le regarder sur Google. Ah. Et pour ma part, je serais contente de connaître vos observations, je pense que c'est un sexe de cheval.
Ah, c'est pas le vrai sexe de Rasputin ?
Moi, j'ai des doutes, hein, quand on voit le Brakmar, excusez-moi.
Quand on voit le Brakmar, on a des doutes.